Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, en France, on n'aura jamais autant insisté sur l'apprentissage des fondamentaux à l'école primaire, à savoir lire, écrire et compter. C'est ainsi que dans les années 90, la science, en dehors de l'arithmétique, ne fut enseignée que dans 3% des écoles primaires. C'est dans ce contexte que l'initiative « La main à la pâte » a vu le jour pour une rénovation de la science, pour ne pas dire renaissance, une initiative qui a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, ce sont 40% des écoles primaires qui intègrent la science dans leur programme. Alors, qu'entend-on par science? Comment l'enseigner? Comment intéresser les élèves et peut-être aussi les parents ou instituteurs? Et comment les autres pays enseignent-ils la science? Pour en parler avec nous, deux invités, Nicole Ostrowski et Yves Quéré. Pour vous présenter, Nicole Ostrowski, vous êtes professeur émérite à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, auteur de l'Agenda de l'apprenti scientifique, paru aux éditions de Lamartinière Jeunesse en 2009. Yves Quéré, vous êtes physicien, membre de l'Académie des sciences et investi avec Pierre Lénard et Georges Charpak dans La main à la pâte, également auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Enseigner, communiquer, paru aux éditions du Pommier en 2008, ouvrage sur lequel je me suis appuyée pour préparer cette émission. Alors pour commencer cette émission, première question, qu'entend-on par science? Je vous pose la question puisqu'il semble qu'il y ait confusion entre les grandes expériences, les grandes découvertes du moment et la science de tous les jours. Nicole Ostrowski.
Une des premières questions que je pose dans l'agenda de l'apprenti scientifique le 1er janvier, qu'est-ce qu'un scientifique? Et je donne l'exemple de « prends une pierre dans ta main, regarde-la » et le physicien te dira pourquoi elle pèse, le mathématicien t'aidera à calculer sa surface, le biologiste dira pourquoi elle n'est pas vivante. Comprenez l'idée, mais tous ces gens-là s'intéressent au monde qui les entoure. Et je pense que c'est ça qui fait un scientifique. Ils sont curieux, ils essayent de comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est vrai que dans le grand public, quand on parle de scientifique, on met les mots chimiste, géologue, éventuellement bon, physicien bien sûr, mathématicien, mais on ne pense pas à tous les métiers qui ont trait à la science. Et c'est pourquoi dans l'agenda, la première question que je pose à l'apprenti à laquelle il doit répondre, c'est « pense à tous les métiers » qui concerne la science et classe-les en deux colonnes. Ça m'intéresse et jamais de la vie. Et mon éditrice m'a dit, mais bon, vous avez déjà donné la réponse dans votre petit texte, parce qu'il y a la physique, il y a la chimie, et puis quoi d'autre? Et alors là, je donne en bas de page, mais toutes les dizaines de métiers qui ont quelque chose à voir avec les sciences, auxquels le public n'associe pas vraiment la science. Comme par exemple, je ne sais pas moi, architecte, pilote d'avion, médecin bien entendu, ça on l'associe tout de même, mais archéologue, enfin il y a des tas de métiers, et la plupart des métiers, je dirais même de nos jours, sont associés avec la science. C'est pourquoi le mot « science », au sens très large, il recouvre à peu près tous les métiers intéressants qui nous entourent, et il y en a beaucoup.
Yves Quéré, vous qui êtes au contact des instituteurs, vous vous rendez assez régulièrement dans les écoles, vous assistez à des cours, vous mettez au fond de la classe, vous restez muet et vous écoutez, c'est ce que vous écrivez dans vos nombreux articles. Quel est votre sentiment quand vous parlez de science avec ces instituteurs?
Il y a les instituteurs, il y a les élèves, il y a science et il y a scientifique. Il y a une expérience très amusante, enfin beaucoup plus qu'amusante, intéressante, qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Marie-Odile Lafosse-Marin, une physicienne, qui a édité un livre sur qui publie des dessins des enfants qui répondent à la question « qu'est-ce qu'un scientifique ?» C'est pas la science, c'est un scientifique. Alors c'est tout à fait étonnant. Il y a deux grandes catégories. Il y a les enfants qui n'ont pas fait de science du tout ou très mal. Et alors les dessins sont terrifiants. Vous voyez un homme, c'est toujours un homme, il a une espèce de chapeau pointu épouvantable, il sort de sa tête des bulles avec des points d'exclamation, des points d'interrogation, il a un air redoutable, et je répète, il est seul, et c'est véritablement un démon, c'est un démon, le scientifique c'est un démon. Et puis alors vous prenez les enfants qui ont fait de la science, par exemple par la main à la pâte, mais pas forcément, ils ont fait de la science, ils ont pratiqué, ils ont tenu des petites éprouvettes eux-mêmes, ils ont fait une expérience, et alors le dessin est complètement différent. D'abord, ils sont plusieurs, ça c'est intéressant, ils travaillent en équipe, parce que les enfants dans leur classe travaillent en équipe. Il y a des femmes, c'est pas forcément du tout un homme, ils ont l'air détendus, et puis ils font, il y a souvent un petit commentaire, ils font des choses utiles pour la société, ils font des médicaments, ils regardent le ciel, c'est peut-être pas très utile pour la société, mais c'est utile pour notre connaissance du monde, etc. Donc voilà la première réponse que je donnerais, c'est l'image du scientifique dans les écoles. Et ça correspond très bien à ce que disait à l'instant Nicole Ostrovski sur le fait qu'on croit qu'il y a juste quelques métiers, et les enfants pensent qu'il y a quelques métiers que... Je répète, un scientifique, c'est un homme enfermé dans son laboratoire et dans ses rêves ou ses cauchemars.
Nicole Ostrovski, dans votre ouvrage, il y a 365 expériences. Où avez-vous puisé toutes ces idées? Parce qu'il en fallait. Et puis, comment vous les avez aussi adaptées à un jeune public? Puisque j'imagine que c'est tout un travail d'avoir les mots adéquats.
Alors, je dirais qu'il n'y a pas 365 vraiment expériences, mais activités. Chaque jour, l'apprenti est au cœur du sujet, c'est-à-dire que c'est lui qui doit réfléchir. Et pour l'amener à réfléchir, bien sûr, il y a des expériences, il y a des devinettes, il y a des questions. Et pour puiser cette idée, d'abord, j'ai tout de même plus de 40 ans de métier derrière moi, à tous les niveaux. Je suis mère et grand-mère, ça aide beaucoup. J'adore parler sciences avec tout mon entourage et pas que les jeunes. Ce que je voulais dire, c'est que, à mon avis, l'agenda, il n'est pas uniquement destiné aux jeunes, en priorité peut-être, mais je pense que tout un chacun, s'il commence à jouer le jeu et lire et faire les expériences et faire les activités, va se prendre au jeu, et c'est ce que je vois déjà depuis un peu plus d'un mois qu'il est sorti. J'ai des retours de public jeunes et moins jeunes. Certainement un public de parents et de grands-parents, mais pas que. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours pensé que la science, c'était trop compliqué pour eux, et ils se rendent compte qu'en faisant des expériences et avec des mots simples, on peut expliquer beaucoup de choses.
Vous parlez des adultes, restons un peu sur les adultes. Yves Quéré, dans votre ouvrage « Enseigner, communiquer », vous expliquez que l'instituteur doit s'écouter parler. Doit s'écouter parler, c'est-à-dire se mettre à la place de l'écolier. Vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, j'avoue que c'est une drôle d'expression. S'écouter parler, c'est pas du tout ce que j'aime de la part des gens, mais je m'en explique quand même dans le livre. Je veux dire, s'écouter parler, ça veut dire qu'il doit se mettre dans la peau et dans les oreilles et dans le cerveau de celui, de celle qui est en face de lui, par exemple des enfants, mais ça peut être le cas pour des adultes. Et il doit, au fond, se mettant à leur place, s'asseyant sur le banc de l'école, il doit écouter ce qu'il dit. Ce qui est tout à fait différent. Il doit écouter ce qu'il dit pour, en temps réel, immédiatement, dans la seconde, réagir et se dire « mais ce mot que je viens d'employer n'est pas compréhensible, après tout, par eux, donc je dois le modifier ». À tout moment, il doit, en fonction de ce qu'il entend, au fond, dans l'oreille de ses interlocuteurs, il doit rectifier son langage en permanence. Ce n'est pas une espèce de monologue. Je crois que l'éducation ne doit surtout pas être un monologue, c'est un dialogue. Même si celui qui est en face de lui est silencieux, c'est peut-être une écoute du silence. C'est un peu comme dans la musique où il faut écouter les silences presque autant que le plein, le vide et le plein. Eh bien, c'est pareil. Il faut absolument qu'on soit en écoute permanente de ce que, je répète, de ce que l'on dit, entendu par l'autre.
En écoute de ce que l'on dit, j'imagine aussi à l'écoute de l'élève. Dans votre ouvrage, Nicole Ostrovski, vous parlez de déculpabiliser les enfants, de poser des questions.
Oui, je pense que ça, c'est un peu le fait que j'ai vécu beaucoup aux États-Unis, où j'ai vu la facilité avec laquelle les enfants, les étudiants posent des questions. Et j'étais vraiment consternée quand je suis revenue en France de me rendre compte que mes étudiants, et plus tard quand j'allais dans les écoles et même dans les... moins dans le primaire, mais dans les écoles ici du secondaire et à l'université, les gens posent très peu de questions. Par contre, quand vous allez dans une classe de primaire, et j'y vais beaucoup en ce moment, comme accompagnant scientifique et par choix, par goût, je me rends compte que les enfants ont encore cette curiosité. Et une des énigmes et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cet agenda, c'est que je me suis toujours posé la question à quel moment cette curiosité s'arrête. Pourquoi est-ce que les gens arrêtent de poser des questions? Qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, c'est le deuxième exercice, je ne sais pas si vous l'avez vu le 2 janvier, où je demande à l'apprenti d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles il ne pose pas de questions. Je suis timide, personne ne m'écoute, ou enfin... peu importe, mais pour essayer de casser ce mur de verre que je trouve franchement dramatique, parce que c'est comme ça qu'on devient scientifique, c'est en posant des questions.
Vous parlez de curiosité, Yves Quéré, vous expliquez que la curiosité n'est pas finalement un automatisme chez l'enfant, qu'il doit s'éduquer en quelque sorte.
Oui, on dit souvent que les enfants sont très curieux. Ils le sont souvent, ils posent des rafales de pourquoi, mais il y a quand même un certain automatisme là-dedans. Ça n'indique pas forcément qu'ils sont curieux. pourquoi, le pourquoi entraîne un autre pourquoi. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas forcément la curiosité. J'y raconte une anecdote, moi, qui me frappe beaucoup. C'est un dialogue entre deux prix Nobel, Abdou Salam et Stephen Weinberg, qui ont eu le prix Nobel en même temps, de physique. Et alors, Abdou Salam, qui est un Pakistanais, demande à Weinberg, qui est un juif américain, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de juifs qui ont le prix Nobel de physique? C'est vrai, il y a une proportion bien plus grande que la proportion des juifs dans le monde. Et la réponse est immédiate de Weinberg, c'est Abdou Salam qui l'a raconté lui-même. La réponse de Weinberg est immédiate. Weinberg dit, mais c'est très simple, quand un enfant rentre dans une famille juive, quand il rentre de l'école, sa mère ne lui demande pas du tout est-ce que tu as bien travaillé, est-ce que tu as été sage, est-ce que tu as été gentil, enfin toutes les questions un peu banales qu'on pose à l'enfant à son retour de l'école, elle ne lui pose jamais ces questions, elle lui dit, est-ce que au moins aujourd'hui tu as posé au moins une bonne question?
Une bonne question, notamment sur son environnement.
Pourquoi l'eau est-elle transparente? Pourquoi le ciel est-il bleu? Il y a des vrais pourquoi dans notre monde qui sont avec des réponses quelquefois difficiles, mais des réponses qui se prêtent très bien souvent à des expériences. Moi, je trouve merveilleux l'agenda de Nicole Ostrovsky parce que justement, il incite les enfants chaque jour à poser une question. La question est posée, mais au fond, il se rend compte qu'il aurait pu la poser lui-même. Et je suis sûr que si l'enfant, pendant 365 jours, a passé les quelques minutes à répondre, à écrire sur le cahier, parce qu'il y a la place pour répondre, c'est ça qui est merveilleux aussi, eh bien, à la fin de l'année, il sera très différent.
Je vous propose de marquer une première pause, si vous le voulez bien. On se retrouve tout de suite après pour évoquer comment enseigner la science ou les sciences dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Academy, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Nicole Ostrovsky et de Yves Quéré, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser à l'enseignement, comment enseigner la science. J'aimerais pour cela, Yves Quéré, que vous nous lisiez les 10 mandements que vous avez rédigés, que vous avez écrits dans votre livre Enseigner, communiquer, publié aux éditions du Pommier en 2008.
Alors, il s'agit de mandements. J'ai mis mandements parce que les 10 commandements, ça fait un petit peu quand même prétentieux. Alors, ce sont 10 mandements, mais c'est peut-être pas exactement pour l'enseignement, c'est pour la communication. Je pensais plutôt à ceux qui communiquent dans les entreprises, etc. Mais ça peut en effet s'appliquer aussi à l'enseignement. Alors, si vous voulez que je les lise, je peux les lire parce que c'est assez rapide. Il y en a 10. Premièrement, ton exposé préparera et construira soigneusement. Deuxièmement, un seul sujet tu traiteras, évitant tous égarements. Trois, au style d'abord tu veilleras, t'y exerçant assidûment. Quatre, ce que le plus tu soigneras, ce sera ton commencement. 5. L'auditeur tu respecteras, c'est lui, non toi, l'être important. 6. Des PowerPoints présenteras, mais sans excès et posément. 7. Au public tu t'adresseras, pas au tableau ni à l'écran. 8. Au temps prescrit tu te tiendras, si bref soit-il, farouchement. 9. Aux commentaires tu répondras sans éluder, brièvement. 10. Un bon repos alors prendra, communiquer c'est épuisant.
Alors oui, effectivement, et ça s'adresse à la communication d'entreprise, mais ces élèves, c'est un auditoire qu'il faut aussi maintenir en éveil.
Oui, et je pense que certains de ces mandements, entre guillemets, s'appliquent en effet assez bien à l'école, c'est-à-dire la nécessité qu'on évoquait tout à l'heure de penser sans arrêt à celui qui est devant soi et d'éviter complètement le monologue qui est l'anti-enseignement.
Nous allons venir dans quelques instants à l'enseignement vertical et horizontal. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Auparavant, j'ai envie de vous poser des questions un peu poil à gratter. Il en faut quelques-unes. La première, la science est-elle nécessaire à l'école primaire? Nicole Ostrovsky.
Je pense qu'à l'école primaire, elle remplit plusieurs fonctions. Elle permet aux jeunes d'éveiller sa curiosité, ça c'est certain, mais en même temps de faire un travail collectif. Et du coup, d'avoir quelque chose à dire et d'apprendre à le dire, d'avoir un point de vue et d'apprendre à le défendre. Ce que je vois quand je vais dans des classes de primaire ici, c'est que les enfants ici apprennent à travailler en groupe et apprennent à s'exprimer. La plupart du temps, quand j'essaye de parler à mes petits-enfants, ils n'ont pas grand-chose à me dire. Mais si ils se rendent compte qu'on peut parler d'un sujet qui leur tient à cœur ou qu'ils essayent de comprendre, à ce moment-là, la communication devient beaucoup plus facile et c'est une très bonne école, les sciences, pour ça. En plus, je pense que c'est à force de faire des sciences à un très jeune âge qu'on y prend goût, qu'on s'aperçoit qu'on peut comprendre. Et personnellement, moi, j'ai démarré très tôt. C'est vrai que j'étais dans une famille de scientifiques, c'était un peu plus facile. Mais réellement, je me sens un peu plus en sécurité dans le monde qui m'entoure parce que je comprends un peu mieux les sciences. Et je pense que c'est très important pour tout un chacun, même s'ils ne font pas plus tard un métier scientifique, d'apprendre cette science. Et il n'est jamais, jamais trop tôt pour démarrer.
Alors comment expliquer, Yves Quéré, peut-être que les professeurs soient encore un peu en retrait vis-à-vis de la science? Alors certainement beaucoup moins, puisque je le disais au début de l'émission pour présenter le sujet, que maintenant c'est 40% des écoles primaires qui enseignent l'école. D'ailleurs, je me base sur vos chiffres à vous. Donc vous avez largement contribué à travers la main à la pâte à développer la science. Mais comment on explique qu'il y a encore une position de retrait?
Oui, une position de retrait, et puis 60% qui ne font pas de science. Alors, ces chiffres ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres du ministère, bien sûr. Ils sont d'ailleurs imprécis, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire faire de la science? Il y en a qui en font peut-être chaque jour un petit peu, il y en a qui en font une fois par mois. Mais ça prouve en effet que l'enseignement des sciences est revenu, en tout cas, de façon significative à l'école. Alors pourquoi c'est 60% et pourquoi c'est 97% d'il y a 12 ans? Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Les uns disent « j'ai pas le temps », d'autres disent « nous n'avons pas de matériel dans l'école », ce qui n'est pas une bonne réponse parce qu'on n'a pas besoin de matériel compliqué pour faire de la science à l'école primaire. Je crois que la vraie raison, c'est la peur. La peur de la science, qui est un phénomène un peu nouveau. Je ne parle pas de la peur de la science au sens la peur de la bombe atomique. Je parle de la peur d'une matière dont l'on pense qu'elle a complètement quitté notre monde. Vous parliez tout à l'heure des GPS, des inaugurations de grands accélérateurs de particules à Genève, de discussions de savants, entre guillemets, sur le génome à la télévision, etc., auxquelles on ne comprend pas grand-chose. Et ça donne tout ça l'impression que la science est devenue une activité d'hyper spécialistes, peut-être là-haut, très très loin dans le ciel, de prix Nobel, de Metal Fields, de gens très très forts, bien sûr, et que tout ça, ça a quitté le monde. Et qu'il n'y a pas de continuité entre ces gens-là, si je peux dire, qui font en effet des choses difficiles, et puis le monde de tous les jours, le verre qui est devant moi avec de l'eau qui est horizontale, une pierre qui tombe verticalement, et tout ce qu'il y a en effet dans l'agenda de Nicole Ostrovsky. Toute cette science simple, elle est compliquée si on veut comprendre tout, bien sûr, mais elle est très simple à permettre de poser des questions et à raisonner. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du lire, écrire, compter, qui est la trilogie absolument obligatoire, si je peux dire, de l'école primaire, depuis des décennies d'ailleurs. Et c'est très bien, lire, écrire, qui penserait que ce n'est pas l'activité la plus importante, que ce n'est pas ce que nous devons léguer à nos enfants, de savoir des mots, de savoir d'avoir une grammaire correcte, et de savoir s'exprimer. C'est ça le plus important. Eh bien, à cette trilogie, nous aimerions ajouter raisonner. Et enseigner les sciences à l'école, les raisons sont exactement celles que disait Nicole à l'instant, mais c'est aussi, mais elle l'a dit pratiquement, c'est aussi apprendre à raisonner, c'est-à-dire à avoir dans la vie, dans ses actions, dans ses pensées, des façons de faire qui soient raisonnables. Et je crois que la science n'est pas la seule, mais elle participe bien à apprendre à l'enfant à raisonner.
Nicole Ostrovsky, il y a quand même des expériences qui sont positives. Il me semble que vous avez mené de front une expérience où vous avez fait venir plusieurs professeurs. Alors finalement, ils se sont retrouvés moins nombreux que prévu pour réaliser des expériences ensuite dans leurs écoles. Vous pourriez nous en dire plus?
Ça, c'était une expérience qui a maintenant plus de 20 ans, mais dont je suis encore très fière. C'est une innovation pédagogique. C'était à la suite d'une visite à l'Exploratorium de San Francisco, qui est à mon sens un des musées scientifiques les plus extraordinaires, où vraiment les gens font les expériences, touchent ces expériences fabuleuses de la science. Et en revenant en France, j'ai eu l'idée de créer un exploratorium qu'on a appelé l'Exploratoire à Nice. Et ce faisant, donc, on a démarré avec des professeurs de l'université qui étaient volontaires, ça c'était facile à trouver, des étudiants qui avaient pris cette option dans leur cursus de première année, et ça comptait pour leur diplôme. Et ensuite, il a fallu trouver des professeurs du secondaire qui avaient des clubs de sciences et qui étaient volontaires pour travailler avec nous. Et donc, pendant plusieurs mois, on a travaillé par un professeur, un étudiant ou plusieurs étudiants qui allaient dans les lycées ou dans les collèges et qui avaient choisi une ou deux expériences à réaliser. Au bout de quelques mois, il y avait des expériences qui étaient un peu bricolées, mais qui existaient. Et donc, j'ai lancé un appel à tout le monde de venir à l'université les présenter dans un amphithéâtre. Et on a vu arriver d'étranges équipages de gens qui arrivaient avec des camions, certains avec des voitures, etc. Et on a présenté ces expériences qui marchaient ou qui marchotaient pas mal. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, mais moi, j'inaugure le cinquantenaire de mon lycée. Il y a une grande salle des fêtes. Pourquoi est-ce qu'en juin, on ne ferait pas une exposition avec toutes ces expériences qui ont été réalisées ?» C'est comme ça que, effectivement, au mois de juin, est né l'exploratoire avec une bonne cinquantaine d'expériences. Et qu'à la suite, donc, le lycée l'a gardé pendant un mois. Ensuite, avec force bonne volonté, camionnette prêtée ou louée, on lui a fait sillonner toutes les villes, villages de l'arrière-pays et autres qui avaient une salle de fête à nous offrir. Et pendant plusieurs années, on a eu comme ça, au total, plus de 100 000 visiteurs qui ont littéralement adoré cette exposition. Et je tiens à dire là qu'on m'avait dit, ça ne marchera jamais en France, cette histoire-là. C'est dans l'esprit anglo-saxon de faire des expériences qu'on touche. Les gens en France, ils n'oseront pas toucher, etc. C'est complètement faux. Si on leur propose ce genre d'expérience, ça marche extraordinairement. Et j'ai encore maintenant dans notre région à Nice des professeurs qui me demandent « Alors où il est cet exploratoire? Pourquoi il ne revient pas ?» Et donc, il y a quelques années, on l'a fait revenir, puisque c'est le Palais de la Découverte qui en a hérité, qui en a fait une exposition itinérante. Et donc, il y a quelques années, on l'a fait revenir. Et je crois qu'une de mes grandes satisfactions a été quand un petit de l'Ariane est venu me voir. Il regardait cette exposition. Il est venu me voir, mais il a dit « Mais qui c'est qui a eu l'idée de cette exposition ?» Et là, j'étais vraiment fière de moi.
Alors j'imagine que c'est beaucoup d'investissements. Vous avez pu renouveler cette expérience? Peut-être que vous avez passé le flambeau?
Mais certainement, le flambeau est passé. Et ça a laissé pas mal de traces et de souvenirs dans la région. Et il y a des gens qui pensent très sérieusement faire renaître l'exploratoire à Nice. Moi, j'ai dit que, bien entendu, je donnerai un coup de main parce qu'il y a au moins une cinquantaine d'expériences qu'on peut faire simplement, où le public peut participer, comprendre sans trop de difficultés. Et l'agenda, il y en a pas mal que j'ai mis dedans. C'est des petites expériences qu'on peut faire chez soi. Alors bien sûr, pour les présenter au grand public, il faut consolider un peu, mais c'est pas très compliqué tout ça. On n'a pas besoin d'avoir des grands instruments ou des choses coûteuses. C'est facile à faire. Et ça apporte énormément de joie aux gens quand ils ont compris quelque chose.
Là, nous étions dans l'expérience. Revenons peut-être à ces instituteurs qui ont leurs élèves et font des leçons. Et il y a l'enseignement dit vertical et l'enseignement dit horizontal. Vertical, c'est lorsque le professeur donne le savoir à son élève. Et l'enseignement horizontal, c'est lorsque l'élève fait des expériences et apprend par soi-même. Yves Quéré.
Oui, ce sont des mots un peu métaphoriques, bien sûr, mais le vertical existe et il a toujours existé et il est d'une certaine façon très bon, à condition que ce ne soit pas le fameux monologue dont nous parlions tout à l'heure. Donc, dans l'enseignement que j'appelle en effet vertical, le professeur parle et les élèves écrivent. C'est souvent comme ça que ça se passe et ils ont pour tâche d'apprendre souvent par cœur pour le lendemain ce qu'ils ont écrit. Et c'est très bien et ça va très vite et c'est une façon, moi je n'ai appris la science à l'école primaire que comme ça. Et il en reste des petites traces, donc ce n'est pas mal du tout. Et on ne voit pas du tout comment on ferait pour apprendre aux enfants, par exemple, le nom des planètes. Il faut qu'ils sachent le nom des planètes, Vénus, Mars, etc. C'est nécessaire dans la vie. Eh bien, je ne vois pas très bien comment on ferait autrement. Donc
mais.
Ça, c'est très très bien.
Hein. Mais il y a un mais.
Mais il y a un mais, il y a des mais partout. Hein. Il y a un mais aussi sur l'horizontal. Donc, c'est pas mal du tout, mais ça ne peut pas correspondre à tout l'enseignement des sciences. La science, c'est aussi, ça ne sont pas que des phrases et des formules et des mots au tableau. C'est aussi, comme ça a été dit tout à l'heure par Nicole, c'est aussi des expériences que l'on fait, la façon que nous avons d'utiliser nos sens. Je vois, j'observe, j'écoute, j'entends, etc. Je touche, je sens. Et donc, dans l'horizontalité d'un enseignement, je parle là d'une façon où, au contraire, entre guillemets, le professeur, au fond, prend par la main, là aussi c'est métaphorique, prend par la main l'enfant et il va à la découverte. Ils vont ensemble en dialogue, ensemble, à la découverte du monde. Alors évidemment, le professeur en sait beaucoup plus que l'enfant, mais il y a une attitude commune à la découverte du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire se poser des questions. D'abord, comme ça a déjà été dit, faire des hypothèses. Laisser l'enfant librement s'exprimer sur ce qu'il pense au fond que pourrait être la réponse à la question posée. C'est amusant, ça, c'est tout à fait extraordinaire. Les enfants regorgent d'hypothèses. Elles sont la plupart du temps naïves, souvent fausses, mais peu importe, ils ont des idées. Ils font travailler leur imagination, c'est-à-dire la faculté que nous avons ou que nous n'avons pas de nous faire des images de ce qui nous est caché. Voyez, alors ils font des hypothèses. Et puis après, ils font une expérience, petite expérience qu'ils font en commun, travail en équipe. En général, le maître les met par 3 ou 4 autour d'une table. Ils font une expérience infiniment simple dans son principe et dans ses appareils. Pas de boîte noire, pas de choses où on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Des petites balances Roberval, un chronomètre pour mesurer un temps, un double décimètre pour mesurer une longueur. Voilà, ils font une expérience et... si tout marche bien, on peut espérer, et ça va souvent dans ce sens-là, ils ont à la fin de l'expérience la réponse à la question posée. L'hypothèse de Béatrice était pas mal du tout, mais l'hypothèse de Jean-Pierre était tout à fait à côté de la plaque. Et enfin, dernier élément d'un enseignement de ce type, dernier mais peut-être le plus important, les enfants rédigent. Et nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire sur ce lien formidable, essentiel entre science et langage. La science n'est finalement qu'un langage. C'est un discours que nous faisons, que nous tenons sur le monde, avec des phrases. Quand je dis « la pierre tombe », c'est une phrase très simple, avec un sujet et un verbe, et c'est une phrase de science. Parce que si je lâche la pierre, elle ne remonte pas vers le ciel. Elle tombe, et demain elle tombera, ce qui me permet d'introduire ce temps extraordinaire dans notre langage qui est le futur, etc. Donc ce lien entre la science et le langage qui nous semble essentiel, et nous revenons sur le langage, et nous entendons dire par les instituteurs, et ça nous ravit, que l'enseignement des sciences, de cette façon plus horizontale, augmente, améliore la maîtrise du langage des enfants.
Et justement, sur la question du langage et de la science, vous citez une anecdote assez régulièrement sur une institutrice qui dicte « l'eau bout à 100 degrés » et un enfant comprend, enfin fait la confusion entre « bouillir », le verbe « bouillir » et la boue, la terre.
Oui, oui, c'est typique d'un enseignement vertical mal compris, je dois dire là. En effet, c'était un homme, c'était un instituteur qui avait écrit « boue » et j'avais arrêté un petit enfant à la fin de la classe pour lui dire « qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en science ?» Alors il avait ouvert son cahier, il ne savait pas encore la phrase, puisqu'il devait l'apprendre pour le lendemain. Et il m'a dit « Oh, bah, c'est pas difficile, dans la boue, il y a de l'eau. » Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il saurait probablement le lendemain parfaitement cette phrase. Probablement, il aurait 10 sur 10. Il avait une bonne tête d'enfant vif, éveillé. Il n'avait rien compris. Mais ce qui s'appelle rien. Vous voyez ?
De la même manière que l'on peut lire sans comprendre.
Parce que « bouillir », c'est d'ailleurs déjà, sur le plan de la grammaire, c'est un mot un petit peu difficile. « Boue », « béouiser », etc., etc. Donc voilà, on voit bien les limites des deux façons d'enseigner. L'un, c'est que l'enfant va savoir, mais peut-être il n'aura rien compris. Et dans l'autre cas, il ne va peut-être pas savoir beaucoup de choses parce que ça prend beaucoup de temps. Dans l'expérience bouillir, il va falloir prendre une chaufferette, de l'eau, un thermomètre, des graphes où on va faire la température en fonction du temps. Ça va prendre peut-être une heure au lieu de 3 minutes. Mais donc l'enfant ne va pas savoir beaucoup de choses à la fin de l'année, mais il aura formé peut-être son raisonnement et appris la façon de travailler en science.
Je vous propose de marquer une deuxième pause. Si vous le voulez bien, on se retrouve pour la suite de notre émission. Nous parlerons de l'enseignement des sciences à travers le monde. A tout de suite.
Saviez-vous que le peintre Claude Monet fut un grand collectionneur d'estampes japonaises ? Cette collection dévoile les liens que l'on peut établir entre l'univers des estampes et celui de Claude Monet. Exemple avec sa toile emblématique, impression au soleil levant, composée de ponts japonais, de glycines et de nymphéas. Le peintre était un paysagiste passionné par les jardins d'eau exotiques, japonisants et propices à la rêverie. Cette émission Carrefour des Arts est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Nicolas Ostrowski et de Yves Quéré. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons partir en dehors de nos frontières. Mais avant, restons quelques instants sur la formation de ces professeurs, de ces instituteurs, la formation à l'IUFM. Il me semble qu'il y a une réforme en cours, bien sûr. Que va-t-il se préparer et que faudrait-il faire pour que ces instituteurs soient au mieux avec cette matière, avec la science ? Nicolas Ostrowski, peut-être ? Vous travaillez beaucoup dessus, je crois.
Oui, je participe depuis pas mal d'années à la formation des maîtres dans le cadre de l'IUFM. Et bon, il y a certainement des réformes nécessaires, mais il faut bien voir qu'il y a des choses qui marchent bien. Et quand il y a des choses qui marchent bien, il faut essayer de les conserver. C'est-à-dire que Quand ça marche bien à l'UFM, comme ça se passe actuellement à l'UFM de Nice, je dois dire, on met les professeurs en situation, c'est-à-dire qu'on leur fait faire vraiment les expériences ou véritablement ce qu'ils vont faire dans une classe, et que c'est très intéressant de voir la manière dont ils réagissent pratiquement comme leurs futurs élèves. Ça les amuse tout autant. Et c'est pour ça que quand je vous disais que l'agenda, c'est pas que pour les jeunes, je pense qu'il y a plein d'adultes ici qui y trouveront leur compte. Ils adorent, les gens adorent manipuler et arriver à faire quelque chose et comprendre par l'expérience. Et donc, dans une formation d'instituteur, si on veut que ce soit rentable, valable, il faut qu'ils soient mis en situation et qu'ils aient réalisé les expériences eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils auront moins peur de les faire devant leur classe, ils auront vu tous les écueils. Et un très bon formateur en UFM va leur parler de tout ce qui pourrait mal tourner, comment il faut s'y prendre, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe dans une classe, etc. Et ce que je vois faire maintenant à Nice, c'est que ces instituteurs qui sont en formation, pas que les futurs d'ailleurs, des instituteurs qui ont demandé à être formés, et donc qui sont revenus, qui enseignent déjà depuis pas mal de temps, mais veulent faire des sciences dans leur classe, on leur fait faire un contrat, c'est-à-dire qu'ils font à l'UFM un certain nombre d'activités, ils vont ensuite les faire dans leur classe, et ensuite il y a un débriefing à l'UFM. Ils reviennent et ils racontent, voilà, ça a marché, ça a moins bien marché, et comme ça on décuple un petit peu les expériences pour que tout le monde puisse le partager.
Oui, vous mutualisez un peu les expériences.
Ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, dans la future réforme, ce qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est qu'on fait sauter, enfin c'est ce que les gens me disent, pratiquement une année de stage. Alors, on est en train de revenir là-dessus, mais ça me paraît indispensable. Je pense que les études qui marchent le mieux en France, je dirais, parmi les études scientifiques, sont les études de médecine, où les futurs médecins sont à l'hôpital très vite. Et ils passent beaucoup de leur temps dans les études de médecine à être formés sur le tas, en exerçant déjà le métier. Je pense que pour l'enseignement, c'est pareil. Que ce soit pour les instituteurs ou les professeurs dans les lycées, il faut qu'ils passent beaucoup plus de temps en situation. Et j'espère que dans la future réforme, dans sa mouture finale, on respectera ce choix-là, qu'on trouvera un moyen qu'ils aillent faire des stages, d'abord auprès des professeurs qui sont les plus qualifiés, ceux pour lesquels ça marche, et ensuite en responsabilité partielle, en revenant ensuite à l'UFM pour faire part de leurs expériences, de leurs échecs et d'avoir des conseils, enfin sous tutelle.
Yves Quéré, peut-être votre sentiment sur la question.
J'adhère totalement. Il faut, pour la science, peut-être plus encore que pour d'autres matières, que le professeur, futur professeur, soit amené en effet à travailler lui-même sur ce qu'il va faire aux enfants. Donc je crois que l'exemple de Nice est un excellent exemple, il y en a d'autres, mais il y a beaucoup d'exemples inverses. Et si, en effet, on allait vers une diminution ou une suppression, je n'ose pas y penser, mais une diminution des stages, je crois que ce serait tout à fait catastrophique. Des stages pour les apprentis maîtres.
Alors, si vous le voulez bien, on sort de nos frontières françaises. On part, pour commencer, aux États-Unis, un pays que vous connaissez bien, Nicole Ostrowski. Vous avez visité, je crois, quelques classes. Comment se passe l'enseignement des sciences là-bas, aux États-Unis?
C'est pas du tout uniforme comme en France. Chaque école, chaque État peut innover et a des règles différentes. Et on cherche à optimiser. Moi, dans les écoles que j'ai vues, il y avait des intervenants extérieurs qui venaient faire des sciences dans les écoles. Ça se faisait pas mal. C'est-à-dire que dans beaucoup de classes, le professeur, une heure par jour, était relevé par un professeur qui venait soit faire des sciences, soit raconter des histoires, qui était spécialiste dans une autre matière, et qui, comme ça, pouvait venir et un petit peu donner un petit peu de temps de relaxation à la maîtresse ou au maître qui n'avait pas les élèves durant toute la journée.
Et sous forme d'expérience,
cette relève de une heure par jour me semble très importante. Parce que moi, je vois des maîtres ou des maîtresses harassés à la fin de la journée. Alors bon, vous allez me dire qu'il y a des questions budgétaires, je veux bien le croire, etc. Mais ces professeurs qui viennent faire comme ça des sciences, bien sûr avec des expériences, mais on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire de la science en primaire, je suis entièrement d'accord avec Yves Quéré là-dessus, on le voit quotidiennement dans nos écoles, c'est quelque chose d'important. Alors, souvent, les maîtres ou les maîtresses restent pendant le cours des sciences parce que ça les intéresse et qu'ils ont envie de prendre la relève, ça se fait tout seul. C'est parce que c'est intéressant, parce qu'ils voient comment ça se passe. Et donc, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Bon, je n'ai pas une énorme expérience comme à Yves Quéré de ce qui se passe à l'étranger. J'ai visité seulement quelques classes aux États-Unis, en Inde et en Chine, mais ça, mon expérience de l'étranger s'arrête pour l'instant ici. Donc je pense que Yves a beaucoup, beaucoup plus de choses à dire là-dessus.
Alors, vous parliez de l'Inde et de la Chine. Commençons par la Chine. Yves Kéré, lorsque nous avions préparé cette émission, vous m'aviez expliqué qu'il y a une pression sociale sur de jeunes enfants, puisque c'est la politique de l'enfant unique. Donc, ce sont des grandes classes avec les enfants qui ont pour seul but de réussir. Donc, j'imagine que ce sont des élèves qui retiennent parfaitement leurs leçons. Ce sont tous des brillants élèves.
Ça, je ne sais pas, parce que je suis incapable d'entendre, de comprendre ce qu'ils disent quand ils récitent leur leçon en chinois. Mais peut-être deux mots pour dire pourquoi la Chine, pourquoi d'autres pays dont nous allons peut-être dire deux mots. Il se trouve que lorsque nous avons lancé, en effet, la main à la pâte, il y a une douzaine d'années, avec Georges Charpak et Pierre Léna, nous l'avons fait au nom de l'Académie des sciences, qui d'ailleurs avait voté carrément une motion de soutien à cette expérience. Donc c'est devenu tout de suite une opération au fond de l'Académie des sciences. Il se trouve, ça c'était un hasard comme ça, que j'étais à cette époque-là délégué aux relations internationales, on dit DRI, de l'Académie des sciences. Donc j'avais évidemment beaucoup de contacts avec des académies étrangères. Et quand on a des contacts, on dit « qu'est-ce que vous faites, vous, académie ?»« Ah ben et vous, comment ça se passe ?» etc. Et j'ai commencé à parler un petit peu de cette expérience de l'enseignement des sciences. Et très curieusement, de façon très inattendue, ça a créé une sorte de résonance, au sens physique, scientifique du mot, avec énormément de pays. Résonance, je veux dire par là que tout de suite, beaucoup, beaucoup de mes interlocuteurs ont dit « Oh, mais nous avons le même problème, le fameux 3% dont vous parliez, la quasi-disparition de l'enseignement des sciences était réelle dans beaucoup de pays, ou alors l'enseignement était totalement vertical, c'est-à-dire un enseignement où le professeur parle au tableau en tournant le dos aux enfants et les enfants écrivent et c'est tout. » Et alors c'était en effet le cas de la Chine. Alors nous avons eu très vite des relations très fortes avec nos amis chinois, notamment avec une femme très remarquable qui était à l'époque vice-ministre de l'Éducation, Madame Veiyu, avec qui nous avons continué, nous avons toujours ces relations très fortes. Et en effet, alors là, je reviens à votre question, nous avons visité des classes, évidemment, très souvent en Chine, et elle-même, Madame Veiyu, nous disait, il y a une pression sociale, c'est elle-même qui nous le disait, extraordinairement forte, qui va jusqu'à ce qu'on voit, cette chose atroce, qui sont des suicides d'enfants, des suicides d'adolescents, ça existe, malheureusement. Mais des enfants qui se jettent à l'eau en rentrant chez eux parce qu'ils ont eu une mauvaise note, c'est quand même terrible. Et alors, bon, tout ça vient de ce qu'il y a cette pression, mais aussi de ce que l'enseignement est très, très, très formalisé et très, à nouveau, pour reprendre ce mot de tout à l'heure, vertical. Et Madame Veiyu a voulu introduire la main à la pâte en Chine. Elle l'a appelé « learning by doing », c'est-à-dire « apprendre en faisant ». N'est-ce pas ? On a bien compris tout à l'heure, l'enfant fait de la science en l'apprenant. Et donc, voilà, learning by doing se répand assez lentement parce qu'il y a les mêmes problèmes de résistance des professeurs et aussi des parents, parce que ça se note. Les parents veulent des notes. Il faut avoir une note sur 10 ou sur 20. Et c'est sûr que l'activité qui fait travailler l'imagination, dont on parlait tout à l'heure, se note moins bien qu'une activité où il faut réciter par cœur une leçon. Donc il y a des résistances, mais c'est vrai, voilà, la main à la pâte ou le learning by doing se répand en Chine.
Donc là, ce n'est pas forcément une question d'effectif, puisque on pourrait penser qu'une des raisons qui fait que la main à la pâte et les expériences de science, une des raisons qui ralentit ce principe d'expérience, c'est qu'on a des classes très nombreuses. Là, en l'occurrence, en Chine, quand il y a des classes de 80 élèves...
80 peut-être pas, mais il y a, 50, vous avez raison, il y a 60 élèves ou 50 ou 60 élèves dans la plupart des classes que nous avons visitées. Mais là, alors là, nous avons un problème qui est simplement celui de la discipline. Les enfants sont extrêmement disciplinés et si le maître dit, voilà, vous allez par petite table, parce que le principe est le même, on les répartit par table de 5 ou 6, eh bien ils le font et ils le font dans le silence. Alors que quelquefois en France, c'est un point important, ça crée du désordre. Et ça, si le maître ou la maîtresse ne sait pas tenir sa classe, alors la main à la pâte peut assez vite diverger et donner lieu à des débordements. Mais je l'ai vu une fois en fait, mais c'est le cas. Et alors, oui, en Chine, ils sont très disciplinés et les enfants pratiquent ça, ma foi, fort bien.
Nicolas Ostrovski, il me semble que vous avez visité une école en Inde. Les enfants aussi donc, sont des classes très importantes, hein, des classes avec des gros effectifs. Et ils font des séances. Ils ont des séances par semaine, de l'ordre de 4 séances par semaine.
Effectivement, j'ai été frappée par l'horaire de sciences de toutes les écoles primaires en Inde, qui est beaucoup plus important que celle que je remarque en France. Ceci dit, bon, il ne faut pas trop rêver. Les classes sont environ minimum 60, souvent plus. Et c'est très difficile de leur faire faire des expériences. Alors évidemment, comme ils savaient que je venais les visiter, ils avaient prévu un certain nombre d'expériences et j'ai assisté effectivement à des défis où on demandait à un jeune garçon, à une jeune fille d'environ une dizaine d'années, de faire fondre un morceau de sucre le plus rapidement possible dans de l'eau, en suivant le processus qu'ils auraient choisi. Alors le garçon, il a pris son morceau de sucre et il l'a bien pilé dans un récipient avant de le mettre dans l'eau et ça a fondu beaucoup plus vite. La petite fille, elle l'avait mis dans son verre d'eau et puis il a mis du temps à fondre. Alors bon, c'était une expérience qui était relativement simple ici, mais tous les gamins ont regardé, applaudi, c'était un véritable défi, une véritable course. Et malgré un public de 60 élèves, je dirais que c'était un... une journée à marquer d'une pierre blanche, parce que comme on m'a fait comprendre, c'est pas tous les jours qu'ils font des expériences, même si c'est seulement deux gamins qui l'ont fait devant tout le monde. Ceci dit, j'ai aussi regardé les programmes du collège, voire jusqu'à la troisième. Et il se trouve qu'une collègue de l'université en recherche était chargée de la rénovation de ces programmes. Et donc ça s'est fait dans les deux dernières années. Et en Inde, quand on rénove les programmes, ça veut dire qu'on doit écrire le livre. Il ne suffit pas de marquer le programme, il faut faire le livre. Et donc cette personne a rédigé sous sa responsabilité, avec cinq ou six autres personnes, ces livres. J'étais frappée que pour la quatrième et la troisième, c'était des programmes de science. C'était pas physique, c'était pas chimie, c'était pas biologie. C'était intégré. Qu'est-ce qu'un jeune qui va peut-être terminer ses études au niveau de la troisième doit connaître pour pouvoir véritablement être un citoyen de l'Inde moderne? Et donc les choix ont été faits et j'ai vraiment admiré le savoir-faire et ce qu'il y avait dans les livres, qui m'a d'ailleurs un peu servi pour quelques expériences que j'ai marquées dans l'agenda, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire soi-même. Beaucoup d'idées, tu rentres chez toi et tu fais. Beaucoup d'idées en Inde, ici, donc même si on ne peut pas le faire dans l'école, les élèves sont encouragés avec peu de choses, une baguette d'encens pour visualiser les mouvements de l'air ou des choses comme ça. Beaucoup d'expériences simples à faire chez soi.
Alors j'imagine que dans ces livres, il y a aussi la notion de pluridisciplinarité, puisque j'imagine que c'est ce que vous soulevez aussi dans votre agenda. C'est peut-être aussi la question qui se soulève ici en France, savoir s'il faut mêler les disciplines les unes avec les autres. Yves Quéré, je me tourne vers vous.
Parce qu'il y a une expérience qui est en cours, et comme vous êtes partie prenante.
Oui, d'abord dans le primaire, on dit la science. On ne dit pas qu'on va faire de la physique ou de la chimie. Mmh. Les enfants font de la science et je répète, quand ils la font véritablement, alors en général, ils adorent ça. Il suffit d'entrer dans une classe pour voir les enfants complètement fascinés par l'expérience qu'ils font de science, sans S, et ils ne s'aperçoivent même pas que vous entrez dans la classe. Alors, le problème s'est posé en effet d'une suite au fond de la main à la pâte, qui, je le répète, était uniquement pour le primaire, dans le secondaire. Et le secondaire après le primaire, c'est d'abord la classe de 6e, puis la classe de 5e. Et alors, en effet, l'Académie des sciences a lancé une expérience, il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle un enseignement intégré de sciences et technologies. Nous avons voulu mêler la technologie avec un contact, la main dans la main aussi avec les mathématiques. Ce n'est pas tout à fait dans le programme, mais les mathématiques, et encore une fois le français, doivent être très près de cet enseignement. Alors, qu'est-ce que c'est un enseignement intégré? Eh bien, ça consiste à mettre ensemble, au fond, je vais dire les choses de façon un petit peu risible, mais on enfermerait le professeur de physique et chimie d'une part, de SVT, c'est-à-dire sciences de la vie et de la Terre, d'autre part, de technologie dans une pièce, et on leur dirait, vous ne sortirez pas de cette pièce tant que vous n'aurez pas fait un cours commun sur le programme de la sixième, qui est la matière, qui s'y prête évidemment très bien. Ça, la matière, c'est en biologie, c'est en géologie, c'est en physique, c'est en chimie, c'est en technologie. Donc ça s'y prête bien. Alors on ne fait pas tout à fait ça, on ne les enferme pas dans une pièce, mais quand même, on leur donne du temps de concertation, ils se concertent, et ils prennent ensuite les enfants, chacun des trois, non pas pour un cours véritablement de physique et de chimie ou de biologie, auquel cas ils auraient simplement en gros une heure par semaine avec les enfants, mais on additionne les heures, ils ont chacun environ 4h30, 5 heures de science, qui est déjà bénéfique parce que les enfants les connaissent mieux, ils connaissent mieux les enfants, et ils font bien sûr en physicien pour l'un, en biologiste pour l'autre, en technologue pour le troisième, mais ils font un cours de sciences intégrées. Donc les enfants ont un cours de sciences, sans S, sur la matière. Et l'expérience donc a été lancée il y a 3 ans de façon très expérimentale, je veux dire par là quelques collèges volontaires, une 20aine, maintenant une 40aine, et il faut dire que les professeurs, eux, je crois que les enfants sont très contents, puisqu'on voit des parents qui, dans un collège donné, demandent que leur enfant soit changé de classe pour qu'il soit dans une de ces classes-là. Donc je crois que ça marche assez bien vu par les enfants, mais vu par les professeurs, c'est tout à fait étonnant. C'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que ces professeurs disent « mais c'est formidable, je n'avais pas tellement l'occasion avant, moi, professeur de SVT, de parler avec le physicien ou réciproquement, et maintenant je parle avec lui, je me rends compte que nous avons des mots à mettre en commun, parce que les mots, le vocabulaire n'est pas tout à fait le même, il faut que les enfants ne s'y retrouvent pas ». Le mot « énergie », par exemple, qui est un mot difficile d'ailleurs, était défini de façon différente, c'est plutôt un mot pour la cinquième, par le biologiste, par le technologue et par le physicien. Donc, ils se mettent ensemble et, dans l'ensemble, l'expérience marche de façon très satisfaisante, mais elle ne concerne qu'un nombre extrêmement réduit de classes pour le moment.
Donc là, c'est pour l'avenir, c'est de développer ces modules.
Mais nous aimerions. Ça ne dépend pas du tout de nous, ça dépend du ministère. Je crois que le ministère voit cette expérience avec beaucoup de bienveillance, et plus que de bienveillance, de plaisir. Mais ce n'est pas tout à fait une expérience gratuite. Il faut remettre de la physique et chimie en sixième alors qu'elle n'y est pas. Il y a donc un problème financier qui se pose, qui ne se posait pas pour le primaire, mais qui se pose. Alors voilà, c'est une décision du ministère à prendre dans les années qui viennent. Ou à ne pas prendre.
Je vous propose de terminer cette émission par une maxime qui figure dans votre livre, Nicole Ostrowski, donc dans l'agenda de l'apprenti scientifique. Je vous cite, hein, « Dis-moi et j'oublierai, explique-moi et je comprendrai, implique-moi et je m'en souviendrai ». Je pense que c'est une bonne manière de terminer l'émission. Elle vient de vous, cette maxime ?
Absolument pas. La première fois que je l'ai lue, c'était à l'Exploratorium à San Francisco. Certains pensent que c'est une maxime chinoise. Oui, en tous les cas, j'y adhère complètement et je pense qu'elle est vraiment pleine de sagesse.
Je redonne le titre de votre ouvrage, L'agenda de l'apprenti scientifique, avec une préface de Georges Charpak. On en parlait au cours de cette émission, qui participe aussi à La main à la pâte, paru aux éditions de La Martinière en 2009. Et puis votre ouvrage, Yves Quéré, Enseigner, communiquer, on en a parlé aussi au cours de cette émission, paru aux éditions du Pommier en 2008. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Merci de vos explications, de vos détails et de vos anecdotes. À très bientôt, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.